Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité à la 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse. Le président de la RDC a fustigé encore l'agression rwandaise via les rebelles du M23. Félix Tshisekedi Tshilombo a également plaidé pour la mise en place d'un tribunal pénal international pour juger ceux qui violent les droits internationaux au pays. Au Nord Kivu, le président du conseil d'administration de la Cogenoki déplore la destruction et le pillage de la laiterie de Luhonga. Emmanuel Kamanzi attribue ses pertes énormes, selon lui, aux récents affrontements survenus dans la province. Notre invité, c'est le responsable de U-Report au sein de l'UNICEF. Aimé Kasereka évalue le renforcement des capacités de 60 jeunes de la ville de Beni au Nord Kivu, dont 30 filles en matière de plaidoyer. Madame, messieurs, bonsoir. Le président de la République a noté ce lundi à la 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse les avancées significatives que son pays a enregistrées ce jour-ci dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Félix Tshisekedi a affirmé avoir pris plusieurs mesures pour la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est notamment la fermeture des prisons clandestines, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et la libération des espaces des manifestations publiques. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution fait par Blaise Ndongala Mayanda.
J'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes: la fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire, la libération de tous les détenus et prisonniers politiques, des espaces des manifestations publiques, des libertés d'opinion, avec pour objectif plus jamais de manifestations non violentes réprimées, ni de manifestants pacifiques poursuivis et tués, et enfin le retour au pays sans condition des exilés politiques. Afin de promouvoir la réconciliation nationale, le gouvernement de la République s'attelle à la mise en œuvre d'une justice transitionnelle fondée sur l'éclatement de la vérité, la reconnaissance de la faute commise.
Au cours de ce forum de Genève en Suisse, le chef de l'État congolais a fustigé l'agression rwandaise via les rebelles du M23 avant de plaider pour la mise en place d'un tribunal pénal international pour juger tous ceux qui violent les droits internationaux en RDC. Partons maintenant pour le Nord Kivu où le secteur agro-pastoral fait partie des domaines qui sont affectés par les affrontements dans les territoires de Massissi, en plus du nombre très élevé de bovins tués ou blessés grièvement par les belligérants depuis le début de la guerre. On déplore aujourd'hui la destruction et le pillage de la laiterie de Luhonga gérée par l'association des coopératives des éleveurs. Son président du conseil d'administration Emmanuel Kamanzi parle et des pertes énormes. C'est ce que nous explique Sifa Magrou.
Cette usine modulaire de transformation des produits laitiers de Luhonga a été lancée depuis le 3 mai 2019 avec le financement du Fonds de promotion de l'industrie à hauteur d'environ 800 000 dollars américains dans le cadre du projet des 100 jours. Cette usine a été complètement saccagée et pillée il y a 4 jours. Emmanuel Kamanzi-Runigi parle également d'environ 20 000 têtes de bêtes déjà perdues dans ces affrontements.
Tout a été emporté presque. On commence par les parcs de panneaux solaires, ainsi que toutes les batteries. Tout a été vandalisé. C'est une perte énorme, alors que cette unité de production donnait de l'emploi au personnel local. Par rapport aux pertes bêtes, nous pouvons estimer déjà plus ou moins 20 000 têtes parties, pillées, jusqu'à ce qu'aujourd'hui une bête qui vous coûtait 500 dollars coûte vers Mueso, Massissi territoire, coûte vers sac 20 dollars. 20 dollars pour une vache qui coûtait 500 dollars. D'autres ont été tout simplement et purement tués et laissés sur place. Il y a des images.
Toujours dans les Massissi, un site touristique d'un particulier situé à Mushaki, très connu et fréquenté pour son paysage paradisiaque, mais aussi des chevaux, est actuellement occupé par les rebelles, selon plusieurs sources. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Nord Kivu encore et en plus bref, des affrontements étaient signalés ce lundi entre les FARDC et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise près de Sake dans le groupement de Kamuronza. C'est précisément vers Luhonga et Bukarara, à environ 6 kilomètres de la cité de Sake sur l'axe Kichanga. Ces affrontements ont provoqué du coup une vive tension et le déplacement massif de la population de Sake qui se dirige vers Goma et vers Minova selon la société civile. D'autres affrontements sont signalés dans la cité de Rubaya, cité minière. Nord Kivu, encore plus d'une semaine après le début de l'enrôlement des électeurs, le territoire de Walikale peine actuellement à entamer cette opération suite à son enclavement, selon le député provincial Prince Kiangi. L'élite de Walikale parle du retard dans le déploiement des kits matériels électoraux dans certains centres d'enrôlement. Au regard de ces défis, il plaide pour une prorogation du délai de 30 jours prévu afin de combler ce retard. Il le dit à Bernard.
Le processus d'enrôlement des électeurs est bité à d'énormes difficultés dans les territoires de Walikale. C'est particulièrement l'insuffisance des moyens financiers alloués à ce processus, les pannes régulières constatées sur certaines machines, mais aussi et surtout l'enclavement de nombreux centres d'enrôlement. C'est particulièrement le cas des groupements Bakonjo, Kisimba et Oussala. Au 11e jour, ces centres n'ont pas encore réceptionné leurs kits respectifs, ce qui fait que l'enrôlement n'a pas commencé dans ces centres. Et cela joue sur le délai accordé au processus dans le territoire de Walikale. Cela nous pousse à demander à la CENI, soit que le délai de 30 jours commence à courir à partir du moment où l'enrôlement effectif commence, soit tout simplement procéder à la prorogation du délai de 30 jours pour donner la chance à tous les électeurs de Walikale de se faire enrôler. Cela joue sur les citoyens eux-mêmes, mais aussi sur le développement politique, économique et social du territoire de Walikale.
Notez que le secrétaire exécutif provincial de la CENI Nord Kivu, Hubert Kasiwa, assure qu'au moment opportun, son institution d'appui à la démocratie prendra une décision quant à ce. Dans l'actualité, il y a également le début ce lundi à Ottawa de l'enrôlement des Congolais résidant au Canada. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Muhindo, qui est arrivé samedi dernier dans ce pays, invite les compatriotes à s'enrôler massivement à l'ambassade de la RDC dans la province d'Ontario. Michel Kifindangoy.
À en croire le rapporteur de la CENI, le centre d'inscription sera ouvert tous les jours, sauf lundi, de 9h à 18h à l'ambassade congolaise, et ce, pendant un mois. Aussitôt arrivé samedi à Ottawa, le représentant personnel du président de la CENI, Denis Kadima, a tenu une importante réunion avec les missionnaires qui étaient déjà sur place depuis quelques jours dans le but de préparer cette opération. Paul Muhindo a passé à peine fin le travail réalisé par les équipes d'avance, notamment celles chargées d'accompagnement des valises diplomatiques, ainsi que celles de la formation, sensibilisation et vulgarisation de la révision du fichier électoral. Le rapporteur de la CENI promet d'échanger pendant son séjour canadien avec les présidents des différentes associations des Congolais de toutes les villes du Canada en vue de les sensibiliser à s'enrôler massivement au processus électoral en cours.
Justice à présent à Bandunduville, chef-lieu de la province du Kwilu, le tribunal des grandes instances organise ce lundi une audience publique contre Tamuzi Lauria, un criminel auteur présumé de plusieurs meurtres et crimes dans cette ville. D'autres inciviques seront jugés à l'occasion. Il s'agit d'une audience en procédure de flagrance. Toutes les victimes sont invitées à se présenter pour les charger. Destitution à Bukavu du gouverneur du Sud Kivu par les députés provinciaux en novembre dernier. L'affaire est actuellement portée devant la Cour constitutionnelle ici à Kinshasa. Mais en attendant, le vice-gouverneur Malago a été notifié par le ministère de l'Intérieur pour assumer l'intérim de Théo Ngwabidjekassi. Reportage à Bukavu d'Emmanuel Elamejua Kabidi.
Le gouvernement provincial du Sud Kivu affirme avoir pris connaissance du message du vice-ministre de l'Intérieur sur la gestion de la province du Sud Kivu. Toutefois, le gouverneur Théo Kasingwabidje dit avoir saisi la Cour constitutionnelle contre le procès verbal de la plénière sur la motion de censure du 24 novembre 2022. Jérémy Bassimane, ministre porte-parole du gouvernement provincial.
Nous ne faisons pas débat sur la lettre du vice-ministre ni sur l'intérim, mais nous continuons à informer l'opinion que la Cour constitutionnel est déjà saisi. Notre requête a été déposée en bonne et due forme dans les délais. Et lorsque la Cour est saisie, tous nous devons attendre que la Cour se prononce pour départager nos deux institutions provinciales. Et ici, nous devons préciser qu'on ne peut pas parler de l'élection du nouveau gouverneur pendant que le dossier est en instruction à la Cour constitutionnelle.
Pendant ce temps, la gestion de la province revient au vice-gouverneur pour les affaires courantes. Ce lundi matin, Marc Malago Kachegere, que nous avons contacté, affirme avoir pris fonction de gouverneur AI, de gouverneur intérimaire et même convoqué un conseil de sécurité provinciale. Emmanuel Elamejwa Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Alliance pour le changement. Le parti politique de Jean-Marc Kabunda Kabund donne de la voix ce lundi au sujet de la situation de son président envoyé à la prison centrale de Makala ici à Kinshasa depuis le mois d'août dernier. Jeudi dernier, une vive agitation a été signalée entre deux camps des prisonniers dont les raisons n'ont pas été communiquées. Du coup, le parti politique de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale parlait d'un souci sérieux de sécurité pour Jean-Marc Kabunda Kabund et interpelle la justice. On écoute Boaz Mwamba, président de la jeunesse de ce parti politique, au micro de Dona Madimbambaya.
Le président Kabund n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il est l'opposant farouche de Félix Tshisekedi. Donc, ce qui se passe à la prison du Makala, peu importe la nature que ça vaut, nous estimons en bon droit que notre président doit être mis en liberté. Parce qu'il ne mérite pas la prison.
Est-ce que vous n'exagérez pas un peu en invitant les médias dans cette situation pour peut-être que l'opinion publique se saisisse de la question et que peut-être la justice soit influencée?
Non, écoutez, la justice de notre pays devrait faire preuve, n'est-ce pas, d'indépendance totale dans cette affaire qui lie le président Jean-Marc Kabound. Ça fait plus de 6 mois maintenant que le président Jean-Marc Kabound est incarcéré injustement. Il n'y a aucune décision de la justice. Le président Kabound a dénoncé les antivaleurs qui caractérisent, n'est-ce pas, la gouvernance de Félix Tshisekedi. Mais dans un état de droit, il a fallu que les procureurs puissent se saisir des dossiers au lieu d'arrêter la personne qui a dénoncé le fait. Nous demandons ce que la justice de notre pays libère Jean-Marc Kabound le plus tôt possible parce que ce dernier, tous les faits dénoncés, s'est avéré vrai.
Partons maintenant pour le Maniema où l'inspecteur chef de poule du secondaire d'Alungouli met en garde les chefs d'établissement et les encadreurs qui monnaient ce jour-ci le stage des finalistes du secondaire en technique sociale, pédagogie générale et en option commerciale. Wang Soumbi fait remarquer que la perception des frais hors normes sera sanctionnée sévèrement. Il s'est confié à Florence Kizalunga.
Par rapport à la passation de ces stages, les instructions sont claires. L'arrêté du gouverneur a fixé tous les frais que les enfants doivent payer à l'école. Et il a été formellement interdit de demander d'autres frais à part ceux qui figurent sur l'arrêté du gouverneur. Tous les frais qui sont demandés, soit par les préfets des études, soit par les maîtres des stages, soit par les chefs de service où vont les stagiaires des sociales et commerciales ou les chefs d'entreprise, tous les frais qu'ils demandent en dehors des frais prévus par l'arrêté du gouverneur sont des frais illicites et doivent être sanctionnés. À titre d'exemple, mon téléphone est plein de beaucoup de SMS de certains préfets qui ont déjà commencé à demander qui 10 000, qui 8 000, qui 15 000 pour les billets de stage. Et tout candidat qui n'a pas versé le 10 000 francs de frais de stage ne serait pas affecté.
Actualité internationale.
Le président français Emmanuel Macron prononcera ce lundi depuis l'Élysée à Paris un nouveau discours sur les orientations de sa politique africaine dans les années à venir. Cette allocution intervient avant le début d'une tournée africaine qui le conduira successivement au Gabon, en Angola, au Congo, Brazzaville et en RDC. La mission des Nations Unies au Mali a condamné l'attaque terroriste survenue ce lundi à Kanibonzon, près de Bankass, au centre du pays. Le bilan dressé par la MINUSMA fait état d'au moins 12 personnes tuées et 3 grièvement blessées et des habitations inondées. Le pape François se rendra du 28 au 30 avril prochain en Hongrie où il rencontrera le premier ministre Viktor Orban. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, annonce que le souverain pontife visitera la ville de Bucarest.
L'invité.
Notre invité, c'est le responsable de U-Report au sein de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance. Aimé Kasereka évalue le renforcement des capacités des 60 jeunes de la ville de Beni, dont 30 filles en matière de plaidoyer. Il s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Monsieur Aimé Kasereka, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on entend d'abord parler de U-Report?
U-Report est un programme de jeunes, de Congolais, où les jeunes partagent les points de vie et participent à la prise de décision à travers le sondage que nous lançons chaque mois. Mais aussi, ils se forment sur différentes thématiques qui sont disponibles via la plateforme U-Report. Mais aussi, ils sont engagés à travers des petites actions qu'ils organisent dans leur communauté pour contribuer tant soit peu avec le moyen disponible au changement dans leur communauté.
Vous dites que les jeunes, à travers U-Report, ils participent dans la prise de décision. Comment?
Oui, en fait, nous avons des sondages que nous lançons chaque mois avec différentes thématiques. Et à partir des réponses que les jeunes proposent, il y a des décisions qui sont prises. Par exemple, le ministère de la Jeunesse, des fois, il nous propose des sondages pour savoir comment ils peuvent travailler avec les jeunes. Et nous voyons la réaction des jeunes face à ces sondages-là qui sont proposés par le gouvernement et qui orientent, par exemple, la prise de décision, le plan de travail de certains ministères.
Et ces sondages sont faits à travers quel canon? Et puis, est-ce que tous les jeunes peuvent accéder à ces sondages ou bien uniquement des jeunes membres ou identifiés membres de U-Report qui en ont accès?
Ok, en fait, la plateforme, premièrement, il faut connaître qu'elle est ouverte à tout le monde. Et pour participer aux différentes activités de la plateforme U-Report, il faut être enregistré. Et pour s'enregistrer, il suffit d'envoyer le mot Go par SMS au SAE et vous allez sur la procédure pour vous enregistrer.
Go.
Le mot Go, oui.
Sur tous les réseaux.
Oui, c'est sur tous les réseaux et c'est gratuit. Donc l'enregistrement, tout comme la participation au sondage, il est gratuite. Une fois que vous êtes enregistré, tout ce qui se passe sur la plateforme, les sondages que nous lançons, vous allez participer. Mais si vous n'êtes pas enregistré, il est difficile que vous puissiez avoir également les sondages que nous partageons.
Et comment est-ce que ces jeunes s'engagent, par exemple dans le développement du milieu, dans la sécurité, comment est-ce que ça se passe?
En fait, les jeunes, c'est ce dit à un moment donné, on ne va pas rester virtuel, juste participer au sondage ou se former à travers les centres de formation qui sont disponibles 24/7. Ils se sont dit non, on doit quand même mener des actions pour contribuer au changement dans nos communautés. C'est pourquoi ils ont créé eux-mêmes ce qu'ils appellent communauté U-Report. Donc les communautés U-Report, ce sont des regroupements de jeunes dans différents quartiers, dans différentes villes, où chaque mois au moins ils réalisent une action dans la communauté qui contribue tant soit peu au changement. Ça peut être une action d'assainissement, ça peut être une action de charité, visite des orphelins, ça peut être une action de renforcement de capacité entre eux. Il y a vraiment pas mal d'activités que les jeunes organisent pour contribuer au changement dans leur communauté.
Et est-ce que l'UNICEF qui parraine cette structure met en disposition de ces jeunes-là, par exemple, des moyens de communication ou moyens de protection en cas d'inquiétude?
Okay,
parce que quand on parle de la sécurité, on dénonce ceci, on dénonce cela.
Bon, c'est pourquoi nous organisons ce programme de renforcement des capacités pour donner aux jeunes des informations claires et précises sur comment, par exemple, ils peuvent dénoncer des cas, veiller sur leur sécurité personnelle. Donc, quand ils mènent les activités, nous leur demandons par exemple de notifier aux autorités, ne peuvent pas faire des activités sans informer les autorités locales de tout ce qui soit en train de mener.
Alors, quel message vous pouvez adresser à toute la communauté, toute la jeunesse du pays par rapport au rôle qu'est censé jouer le U-Report et aussi l'importance de cette structure au sein de la communauté?
C'est de demander à tous les jeunes des régions du mouvement U-Report. C'est vraiment un mouvement, c'est un programme qui leur donne la parole. Donc à travers leur participation au sondage, leur point de vue sont pris à compte.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un résultat de sondage effectué par les jeunes de U-Report qui a débouché à une activité ou un programme ou une décision quelconque? Palpable.
Merci beaucoup. Déjà, l'exemple, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, la formation à cours, c'est que à la fin de l'année 2020, nous avons lancé un sondage pour demander aux jeunes s'ils voulaient s'exprimer sur quelle thématique l'année 2020 ou ce qu'ils voulaient qu'on fasse avec l'année 2022. La majorité des jeunes ont proposé des séances de renforcement des capacités. C'est pourquoi nous avons mis en place ce programme dénommé U-Report où nous faisons des marathons de formation pour essayer de coacher les jeunes, notamment sur le plaidoyer, parce que pour mener les activités dans leur communauté, ils ont avoir une connaissance sur le plaidoyer. Et la ville de Beni est maintenant la 7e ville à avoir bénéficié de cette formation. Le souci, c'est que nous puissions toucher toutes les villes de la République démocratique, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons moins 65 communautés U-Report à travers le pays.
Aimé Kasereka, merci.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, le responsable de U-Report au sein de l'UNICEF. Aimé Kasereka a été interviewé à Beni par Sadiki Aboubakar. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté à Kinshasa. Il est 18h20. Infiniment merci à Pé, l'équipe Elamondo qui m'a accompagné.
Prochain rendez-vous avec l'actualité en français sur nos antennes à suivre à 19h, heure de Kinshasa.
Au Capissoir, Christelle Fritti.
Merci de continuer à suivre le programme de Radio Okapi de ce lundi 27 février 2023. Pierre Diassinois continue d'assurer la mise en onde de cette antenne. Je suis Christelle Fritimangoa. Côté menu, notez que le journal en Kikongo intervient à 18h30, heure de Kenge, le journal en Lingala à 18h45, heure de Bumba. Et sans plus tarder, voici pour vous le journal de sport.
Okapi Sport.
Bonsoir Enoch Matondo Mvuezolo.
Oui, bonsoir Christelle Fritti Mangwa. Bonsoir également à tous les amis sportifs. Troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La République démocratique du Congo recevra la Mauritanie au stade de TP Mazembe. Ce n'est plus le stade de Japoma au Cameroun qui va accueillir ce match. La confirmation est venue depuis cet après-midi de la Fédération congolaise de football, l'association FECUFA. Les Léopards de la RDC et El Mourabitoun de la Mauritanie se jouent le 24 mars 2023 sous le coup de 15h de Lubumbashi. Et puis le dernier club Motema Pembe, dans le cadre de la Coupe de la Confédération de la CAF, doit payer la somme de 30 000 dollars américains pour l'utilisation de l'aire de jeu du stade de 11 novembre de Luanda en Angola. Les Immaculés qui ont déjà livré 3 rencontres dans ce stade ont donc une dette de 30 000 dollars américains, car la facture pour chaque match est élevée à 15 000 dollars américains multiplié par 3, ça fait un total de 45 000 dollars américains. Mais le club quinois avait déjà payé les 15 000 dollars américains couvrant son match contre les Diables Noirs du Congo au Brazzaville. Et puis à l'entente provinciale de football de Kinshasa, des matchs étaient au programme ce lundi 27 février 2023. D'abord au terrain Oudjana, PJSK a eu raison de nouvelle vie Bomoku par 3 buts à 1. Le FC Standard de Lemba devant le FC System a perdu par 0-1. Victoire de Aigle Royal, 1 but à 0 devant Asmoudi. Les élites ont battu Lokolomoto sur ce même score d'un but à 0. Et puis en tennis, le championnat du Congo de tennis, chez les moins de 14 ans, Monsieur Eternité Kalonji de Kinshasa a battu Saddam Moloto de Goma par 2-7 à 1. Et puis Sarma Nkulufa de Kinshasa a battu Arnold Ikondo de Kinshasa également par 6 contre 4. Plus que 24 heures et la République démocratique du Congo ne prendra pas part au 9e jeu de la francophonie, du moins dans son volet sport. La raison est toute simple, le gouvernement de la RDC n'a pas encore payé les droits de participation des athlètes congolais. Plus de précisions avec Eric Kinzambi, point focal de fédération participante au jeu de la francophonie.
Chaque fédération doit informer le ministère des sports les nombres des athlètes qu'il compte aligner pendant les jeux. Pour notre cas, la lutte, nous allons aligner 35 athlètes. 10 en libre, 10 tous, on a 35 athlètes qu'on va aligner. Les autres fédérations aussi vont informer le ministère des Sports les nombres des athlètes qu'ils veulent bien aligner pendant les Jeux. Ce nombre-là, parce que pour chaque athlète, le gouvernement doit payer 400 dollars multiplié par 400. C'est ça le frais que le gouvernement doit payer à l'Organisation internationale de la francophonie pour que les athlètes congolais participent aux Jeux de la francophonie. Ce n'est pas seulement les athlètes du Congo, c'est pour tous les pays qui participeront aux Jeux de la francophonie. Le volet culture, pour notre pays, ça a déjà été fait. On a déjà enregistré, on a même clôturé. Il ne reste que le volet sport qui se clôture aussi le mardi 28.
Oui, maintenant, est-ce que l'État a déjà payé? Comment les choses se présentent présentement?
Non, je ne sais pas si l'argent est déjà disponible, mais au moins, nous, fédération, devons communiquer au ministère des Sports le nombre des athlètes que nous voulons bien aligner, comme je le disais. Le ministre va rassemblé va avoir l'effectif global multiplié par 400 dollars l'athlète. C'est ce montant-là que le gouvernement va payer.
Prévenir les accidents dans les milieux sportifs, les accidents de circulation et tout genre d'accidents. La Fondation Vodacom, ensemble avec la Croix-Rouge de la RDC, organise depuis ce lundi 27 février 2022 dans la matinée un séminaire de formation. Plus de 60 secouristes sont donc à l'école d'apprentissage. Roliane Youlou, cadre de la Fondation Vodacom, parle d'autres objectifs de cette formation.
On est tous en RDC et vous voyez en fait en cours de route comment la population se débrouille. Je dirais se débrouille pour assister des personnes qui sont victimes d'accidents. On voit déjà comment les premiers gestes ne sont pas respectés et cela cause un peu plus de tort. Certaines personnes meurent, pas nécessairement parce qu'il y a eu accident, parce qu'elles sont entrées dans un accident, mais en fait elles meurent parce que les règles des premiers secours n'ont pas été prises en compte, n'ont pas été respectées. Et donc nous perdons des proches, nous perdons des membres de famille, nous perdons ainsi des personnes qui nous sont chères juste parce qu'il y a eu cette erreur. Alors on voudrait aider la population à être équipée avec justement ce qu'on a appelé le centre de premier secours où nous formons des secouristes et nous les équipons pour qu'ils soient prêts à tout moment à aller secourir la population ou des personnes victimes d'accidents ou d'incidents routiers ou domestiques.
En tant que structure, la Fondation Vodacom fait le travail d'identification des partenaires afin de venir à l'aide des populations meurtries et celles défavorisées, a conclu Roliane Youlou. Et cette formation ira aussi dans les provinces, en commençant par le Congo central, le Kasaï et dans l'est de la République démocratique du Congo. Fin de cette chronique des sports. Bonne suite des programmes sur Radio Capi.